Bonjour, chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bienvenue dans notre émission Art, Histoire et Iconographie chrétienne. Nous avons aujourd'hui un invité de grande importance, Jean-Paul de Ramble, maître de conférence en histoire de l'art médiéval à l'Université de Lille 3, nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui dans le studio. Bonjour, monsieur de Ramble.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous recevoir à Chartres, car vous avez été avec votre épouse Colette, la cheville ouvrière de la relecture du vitrail médiéval en général, et surtout en particulier des vitraux de la cathédrale de Chartres. Mais je voudrais consacrer cette émission d'aujourd'hui aux études que vous avez menées sur l'importance de la lumière et le symbolisme de la lumière dans la cathédrale médiévale. Et vous avez animé plusieurs fois déjà, dans le cadre des journées d'études culturelles organisées par le Centre international de vitrail à Chartres, des sessions de conférences sur la production et la réception de la lumière dans l'architecture médiévale. Donc c'est un nouveau centre d'importance dans vos études, et peut-être on peut commencer tout de suite par l'absence de lumière dans la cathédrale de Chartres, que nos auditeurs ici connaissent très bien, l'absence due à l'encrassement de la cathédrale. Donc à l'origine, la cathédrale était beaucoup plus lumineuse.
Tout à fait. C'est effectivement un paradoxe, c'est une question qui est lancinante, parce que la cathédrale de lumière est sombre. Donc tous les visiteurs qui rentrent dans la cathédrale font ce constat, mon Dieu qu'elle est sombre. C'est vrai qu'on n'éprouve pas la même chose à Amiens, on n'éprouve pas la même chose à Bourges, qui ont une luminosité peut-être plus facile dans la mesure où elles ont perdu leurs vitraux. Alors c'est vrai que la lumière médiévale, c'est le résultat de trois facteurs. Donc c'est quelque chose qui est très compliqué finalement à restaurer pour nous aujourd'hui, dans la mesure où il faut que ces trois facteurs soient en accord. Il y a d'abord un grand désir de lumière d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire qu'il y a toute une théologie de la lumière qui se résume dans les mots de Saint Jean, Dieu est lumière. La lumière est venue dans le monde ne l'a pas reçue à cause de son obscurité, de ses ténèbres, mais la lumière va vaincre l'obscurité et va avoir raison des ténèbres et s'épanouir, en particulier le matin de Pâques. Donc c'est le jour de la lumière par excellence. Alors, le christianisme, d'une certaine mesure, reprend les vieux cultes solaires, mais il y a quelque chose de beaucoup plus original dans la foi chrétienne, qui est que cette lumière va illuminer le croyant. Et le croyant va participer à cette lumière. C'est la qualité de la lumière que d'envelopper ceux qui s'y trouvent et de les emmener dans un mouvement pratiquement de fusion, au point qu'il n'est plus question de distinguer ce qui serait lumière et pas lumière, ou ce qui serait être lumineux ou moins lumineux, tout devient lumière. Alors c'est vraiment un mouvement général qui trouve son apothéose dans l'Apocalypse, ce texte qui conclut la Bible, après l'avoir ouverte avec la Genèse sur ce premier jour où précisément il y a l'affirmation de la lumière par opposition aux ténèbres, à la fin de cette longue histoire, comme si c'était un grand combat, l'Apocalypse va décrire effectivement la descente d'une Jérusalem céleste, toute lumineuse, c'est-à-dire parée de toutes les pierres précieuses, de tous les cristaux, dont la principale caractéristique est finalement d'être blanche. Voilà, donc ça c'est la première chose qui est vraiment une célébration de la lumière, et ça doit se traduire non seulement dans une conviction intellectuelle ou scripturaire, mais surtout dans une pratique liturgique, une pratique des heures, qui fait que tous les jours, on commence le temps de la prière par la veillée, le soir, c'est-à-dire par la nuit. Il y a une sorte d'inversion par rapport à ce que nous pratiquons nous, parce que nous commençons la journée le matin et nous la finissons le soir. Mais d'un point de vue liturgique, les journées, les fêtes commencent la veille. Et il faut d'abord faire cette longue expérience de la nuit, cette longue attente de la nuit que les moines pratiquent avec persévérance, en se relevant au milieu de la nuit comme des veilleurs, et qui sont là justement pour attendre le lever du jour. Alors il y a des offices très longs, les ténèbres, l'office des ténèbres, l'office des nocturnes, qui sont des longues prières de désir, d'attente. Et puis, à un moment donné, le soleil se lève. L'Église a d'ailleurs été conçue pour accueillir ce soleil levant, dans la mesure où elle est orientée, parce que toutes les églises sont orientées vers l'est. Donc le cœur va capter dès les premiers rayons, une lumière tout à fait nouvelle, tout à fait enthousiasmante. Et à ce moment-là, on va chanter les laudes, la louange d'un Dieu qui ressuscite, qui est vainqueur de la mort. Alors c'est un long mouvement, effectivement, pendant la journée sans doute de la naissance vers la mort, mais la nuit, beaucoup plus complexe, beaucoup plus dure, de la mort vers une nouvelle vie. Voilà, ça c'est la première conviction, scripturaire, théologique, liturgique. Alors après, évidemment, il y a, techniquement parlant, comment on va accueillir cette lumière dans un édifice. Donc les édifices chrétiens ont toujours été conçus pour être lumineux. Effectivement, il y a sans doute un a priori qui consiste à vouloir de l'obscurité parfois, comme si on préférait un peu les cavernes, comme si on préférait les tombeaux, comme si on préférait les mausolées, bon, qui sont effectivement sombres, encore que même dans un mausolée, il y a une thématique de la lumière. Par exemple, le Panthéon à Paris, qui n'a pas de fenêtre, a quand même cet oculus céleste qui accueille la lumière du soleil, et tout est polarisé justement par l'accueil d'une lumière qui vient d'en haut. Mais il y a une sorte de thématique un peu païenne, il faut bien le dire, qui fait préférer l'obscurité à la lumière. Donc il faut vraiment vaincre cet a priori et considérer que l'édifice, dès les premiers temps où les chrétiens ont pu construire des églises, cet édifice est lumineux. Donc c'est le choix que les chrétiens vont faire de la basilique. Une basilique, c'est un bâtiment romain dans la ville qui se distingue par sa capacité d'accueil, une large capacité d'accueil, et qui se distingue par sa luminosité, parce qu'il n'est pas question d'accueillir une assemblée dans l'ombre. Donc les fenêtres sont nombreuses dans la basilique de Maxence, de Constantin, dans les basiliques du Forum, etc. Elles sont toujours, celle de Trèves qui est mieux conservée, elles sont toujours très très lumineuses. Et les chrétiens ont jeté leur dévolu sur cet édifice, de préférence au temple, par exemple. Le temple, lui, a une luminosité extérieure, mais celle-là, le lieu sacré, le Naos, est sombre. Et relativement peu accessible, sinon aux prêtres, mais pas du tout au peuple, en tout cas, qui reste, comme le nom l'indique, à l'extérieur du temple, les profanes devant le temple, qui n'ont pas accès justement à l'intérieur. Les chrétiens vont vouloir un lieu où le sacré est accessible, et vont choisir un lieu profane d'entrée de jeu, qui est largement ouvert, au point de ressembler parfois même à une halle commerciale, mais en y installant un autel, c'est-à-dire en y installant le lieu du sacré, le lieu de l'Alliance. Alors, cet édifice, qui est le lieu de la communauté, l'Ecclésia, se veut le plus beau possible. Donc on va effectivement l'ornementer, et il y a une contradiction qui va se faire dans la mesure où on va vouloir améliorer la technique de construction en voûtant l'édifice. Parce qu'on va estimer qu'une voûte en pierre, c'est nettement supérieur à un plafond en bois. Même s'il y a des beaux caissons dorés, une voûte en pierre est plus solide, plus résistante au feu, etc. Et donne une idée un peu d'une Jérusalem d'éternité. Alors, cette voûte, pour l'installer, il a fallu évidemment renforcer les murs, il a fallu consolider, c'était très long de trouver la loi des poussées, de trouver cette règle de la croisée d'ogives qui affine tous les éléments porteurs au point effectivement de pouvoir rouvrir les murs qui ont été fermés dans un premier temps par souci de solidité. Donc il y a une petite contradiction pendant tout le temps de la recherche romane où, préférant un édifice solide, on en rabat un peu sur la lumière, mais l'objectif c'est toujours la lumière, et donc on fait évoluer les techniques jusqu'à la technique gothique pour que les murs à nouveau deviennent des murs de lumière.
On va ouvrir une petite fenêtre musicale.
Oh.
Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, nous sommes dans le studio avec Jean-Paul de Ramble, maître de conférence en histoire de l'art, qui nous parle de la lumière dans la cathédrale médiévale. Jean-Paul de Ramble, je vous donne tout de suite la parole.
Voilà, donc dans cette grande aventure de la quête de la lumière, par exemple, on pourrait citer cette belle phrase de Saint Bonaventure dans un de ses sermons qui dit « Que de splendeur quand la lumière du soleil éternel illuminera les âmes glorifiées. Une joie extraordinaire ne peut demeurer cachée. Elle déborde en allégresse, en jubilation et en chant pour tous ceux qui verront venir le règne des cieux. » Donc cette joie profonde de la lumière, de l'illumination, qui caractérise vraiment la spiritualité médiévale. Et encore une fois, donc toutes les architectures et toutes les œuvres d'art vont être conçues pour célébrer cette lumière. Alors, une fois qu'on a construit cette église, il faut effectivement fermer toutes les ouvertures qui sont censées donner de la lumière. Et donc, non seulement les fenêtres doivent être suffisamment larges, bon, l'architecture gothique va permettre d'ouvrir largement les parois, encore faut-il trouver un matériau qui ferme ces fenêtres tout en laissant passer la lumière. Et les techniques là sont assez lentes à se mettre en place parce que trouver un matériau sur une grande surface qui permette effectivement de résister au vent, à la pluie, aux tempêtes, aux agressions extérieures et en même temps laisser passer la lumière, ce n'est pas évident. Il n'y a guère qu'un seul matériau connu depuis très longtemps, mais utilisé sous forme de vitre depuis finalement sans doute un peu avant l'an 1000, peut-être dès l'époque paléochrétienne, on a quelques traces de petits morceaux de verre, mais d'une façon assez parcimonieuse, il faut vraiment attendre l'an 1000, 11e, 12e et a fortiori le 13e siècle pour utiliser ces morceaux de verre sur des grandes surfaces plates. Alors le verre est un matériau magique qui a beaucoup fasciné les générations passées, qui nous fascine encore aujourd'hui, dans la mesure où c'est un matériau qui laisse passer la lumière. Alors que tous les autres matériaux résiste à la lumière. Donc la lumière peut passer à travers et ne détruit pas le matériau. On y a vu là une véritable symbolique de la transcendance. Comment une transcendance chrétienne précisément, comment ce sacré peut être accueilli dans l'humanité sans briser l'humanité tout en donnant à l'humanité de resplendir d'une façon lumineuse. Donc comment la lumière peut passer à travers une matière a priori opaque sans détruire cette matière et au contraire en l'illuminant. C'est le verre. Le verre qui produit son effet non pas par une projection de lumière sur le matériau, mais par un passage de la lumière à travers le matériau. Donc ce à travers évoque immédiatement la transcendance. Ce caractère qui donne effectivement une dimension d'extérieur vers l'intérieur, de cette lumière mystérieuse, donc considérée comme divine, vers une illumination intérieure. Et ce matériau va être travaillé pour que la lumière passe abondamment. Pas facile, d'abord les morceaux de verre sont très épais, donc offrent quand même une résistance assez importante, et puis on a le souci de les colorer, parce que les couleurs vont apparaître comme des sortes de bijoux, des sortes de pierres précieuses, mais les couleurs vont offrir aussi des résistances variables à la lumière, vert bleu, vert rouge, vert violet, vert jaune, bien sûr, qu'on utilise avec parcimonie, donc il y a une sorte de réduction de l'intensité lumineuse, mais on y gagne en profondeur, on y gagne en intensité et on y gagne surtout en émerveillement. Voilà, ce verre va être utilisé grâce à des plombs, grâce à des cadres métalliques sur des surfaces de plus en plus importantes, au point, comme dans la Sainte-Chapelle, d'obtenir vraiment le rêve absolu qui est le mur de lumière, le mur cloison qui n'offre pratiquement plus de résistance. Alors ces vitraux sont réalisés à grande échelle à partir du 12e, 13e, 14e siècle. On a des expériences auparavant. Comment fermait-on les fenêtres dans les édifices anciens? C'est assez difficile de savoir, peut-être avec des pots tendus, très très clairs et huilés, qui auraient fait office de... Mais vraiment pas très agréable à la vue. Sans doute des tentures que l'on fermait pour se protéger du froid et du vent, mais qu'on ouvrait pour avoir la lumière. C'était un peu difficile à manipuler, des cadres en bois, des volets, des choses comme ça. C'est vrai que le vitrail, quand la technique va être maîtrisée, va représenter un progrès considérable. Mais en même temps, ces vitraux demandent beaucoup de soins. D'abord dans leur fabrication, mais aussi dans leur entretien. Et on observe qu'un vitrail, un peu comme les vitres chez tout un chacun, se salit. Un dépôt de différentes saletés qui viennent de l'atmosphère, qui viennent de réactions chimiques aussi plus ou moins heureuses, qui font qu'il y a une croûte qui finit par se déposer sur le verre et l'obscurcir. Donc il faut, à vrai dire, tous les 50 ans, si on est très riche, un peu moins souvent, si on l'est moins, nettoyer tous ces vitraux, ce qui suppose de les descendre, de les déposer, de les emmener à l'atelier, de les ramener. Alors ça, c'est un travail énorme qui a été fait récemment. On avait fait déjà après-guerre, à un moment de la repose, mais peut-être pas aussi systématique qu'on le fait aujourd'hui. Et alors, effectivement, la grande surprise, c'est de retrouver à ce moment-là des vitraux complètement translucides. Pas transparents, bien sûr, mais translucides, et donc qui restaurent une quantité de lumière tout à fait satisfaisante. Alors, ces vitraux qui se sont salis, c'est vrai que ça a été l'occasion de beaucoup de malheurs dans la cathédrale, en particulier après le moment de la Renaissance, au XVIIe, XVIIIe siècle. Les vitraux devaient être très sales. On n'avait pas dû les entretenir énormément, on ne comprenait plus beaucoup les histoires qui étaient racontées dedans, et donc on a préféré les détruire. Donc les chanoines des 17e et 18e.
Je pense que les chanoines, ils ont déposé, puisque je pense que vous allez parler du chœur, de la restauration du chœur au 18e siècle, ils ont déposé, sur demande de Bridan, sculpteur, ils ont déposé 8 verrières de la partie haute du chœur parce que le sculpteur voulait une belle lumière qui mette en exergue son œuvre. Mais les chanoines n'ont pas détruit parce qu'on savait très bien que le verre se brisait et il fallait garder quand même en réserve les panneaux de vitraux qui pouvaient être réutilisés. Mais alors le fidèle qui rentre dans la cathédrale, il peut se demander pourquoi on met effectivement dans une cathédrale qui est la célébration de la lumière divine, des vitraux qui obscurcissent, et on peut en tant que touriste ou visiteur de la cathédrale de Chartres, expérimenter justement la différence entre la lumière très chaude qui rentre par les vitraux colorés, avec les lumières des pierres précieuses de l'Apocalypse, et les grisailles, ces fenêtres qui sont faites avec beaucoup de verre blanc. Et là, on voit bien la différence. La lumière qui rentre là, elle est crue, elle est pâle, elle est fade finalement par rapport à la lumière qui se reconstitue derrière le vitrail à l'intérieur de l'enceinte.
Il y a plusieurs conceptions de la lumière. Dans l'hypothèse où les vitraux sont de bonne qualité et propres, il y en a deux. Il y a effectivement l'hypothèse du 17e, 18e qui préférait une lumière très, très blanche pour mettre en valeur d'autres aspects des sculptures, les tableaux, qui avaient besoin d'être soigneusement éclairés. Et alors effectivement, les grisailles à ce moment-là sont les bienvenues. On trouvait déjà les grisailles chez les cisterciens, qui préféraient les grisailles à des vitraux de couleur pour davantage de lumière à l'intérieur. Leur mystique était très centrée sur la lumière, donc plus il y avait de lumière, mieux c'était. Les couleurs diminuent un peu les lumières, mais en même temps, comme vous avez dit, les rendent plus chaudes, les rendent plus agréables et plus narratives aussi, puisque les grisailles, a priori, ne racontent pas d'histoire. Donc, effectivement, ces deux aspects qui sont parfois contradictoires, et quand il s'agit effectivement de recevoir un bâtiment dans la longue durée, les générations arrivent avec des goûts différents. Même nous, aujourd'hui, nos goûts ne sont pas forcément ceux du Moyen-Âge. On a des hypothèses de coloration, on a des hypothèses de l'état d'origine qui sont loin d'être évidentes.
On va approfondir effectivement cette question après la deuxième petite pause musicale. Merci beaucoup.
Oui.
Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, nous sommes avec Jean-Paul Derambles qui nous parle toujours de la réception de la lumière dans la cathédrale médiévale, et je voudrais qu'il continue à approfondir justement cette question de la lumière qui traverse les vitraux, ce matériau par excellence qui permet à la lumière divine d'illuminer l'intérieur de la cathédrale. Nous parlions de la différence entre les grisailles, ces verrières qui sont faites avec du verre blanc, et des vitraux médiévaux qui sont marqués par la coloration, ces tapis de verre teintés dans la masse, qui représentent sans doute, selon l'Apocalypse Saint-Jean, les pierres précieuses qui illuminent donc, qui illustrent la lumière divine à l'intérieur. Donc Jean-Paul Derambles, je vous laisse la parole parce que vous avez encore de fort intéressantes choses à nous dire, je pense.
On peut parler longtemps sur cette lumière, tellement elle habitait les bâtisseurs, les clercs, les fidèles de cette époque-là, qui étaient complètement, comme la phrase de Saint Bonaventure peut le dire tout à l'heure, totalement fascinés par cette illumination et totalement aussi enthousiasmés par la promesse d'arriver dans la lumière. Et la cathédrale, l'église, la cathédrale est un lieu de lumière, d'expérience de la lumière. Alors on est aujourd'hui à une époque absolument extraordinaire parce que la restauration des vitraux, qui avance grand train, nous redonne les vitraux dans leur état d'origine. Alors c'est un rêve, la cathédrale, malgré tout, ayant été construite assez rapidement, il y a un moment, sans doute aux alentours de 1220, où l'ensemble des vitraux, les deux roses peut-être, un peu plus tard, mais enfin, où l'ensemble des vitraux était mis en place. Donc on avait effectivement une lumière assez homogène. Et avec le temps, cette lumière varie, avec les obscurités qui s'ajoutent, qui les crassent, etc. Donc on a du mal à avoir aujourd'hui un état de la lumière dans son ensemble. Il y a des parties restaurées qui sont très très lumineuses et qui nous enchantent, et puis il reste encore malheureusement encore des vitraux sombres, en particulier les vitraux de l'étage supérieur de la nef. Ceux du chœur commencent à être totalement nettoyés, mais ceux de la nef sont sombres. Alors, c'est les vitraux de l'étage supérieur qui donnent le plus de lumière. Ceux de l'étage inférieur donnent de la lumière, mais dans les bas-côtés, cette lumière, évidemment, ne va pas remonter dans la nef. Donc, il faut absolument des sources lumineuses qui viennent d'en haut. Et tant qu'on n'aura pas restauré l'ensemble des vitraux, on aura toujours une ambiance moitié obscure, moitié lumineuse. Mais enfin, on a fait des très très gros progrès pour la luminosité. Et maintenant que les deux roses nord et sud sont restituées, que les vitraux du chœur sont restitués aussi, que l'ensemble des vitraux de l'étage inférieur sont nettoyés, il ne reste guère que les vitraux de la nef et du transept, des fenêtres hautes, à rendre dans leur pureté d'origine. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Il faut souhaiter que la restauration avance bon train, parce que malgré tout, on risque pratiquement déjà de mettre presque 50 années, et on le voit déjà avec les restaurations anciennes, il faut recommencer très vite à restaurer, à entretenir donc le chœur. Mais c'est l'église, ça serait vraiment un rêve. Alors le dernier facteur qui fait qu'il y a une véritable expérience de lumière, le premier c'est donc cette mystique et cette liturgie de la lumière au rythme des heures. Le deuxième, c'est le travail des fenêtres et des verres qui reçoivent cette lumière et qui l'enchantent. Et il y a un troisième facteur qui est celui des enduits, celui des revêtements intérieurs. Et c'est aussi un moment privilégié pour la cathédrale parce que nous sommes en train de redécouvrir une cathédrale avec des enduits clairs, des enduits lumineux. Et cette dernière touche est fondamentale parce qu'elle ajoute évidemment de la clarté. C'est facile de comparer aujourd'hui un mur sale, mais vraiment sale. Quand on regarde avec la différence, on est tout à fait étonné de cette couche de poussière qui s'est accumulée sur certains murs et qui les rend noirs. Alors ce noir et piège la lumière, et après ça, pour éclairer un mur qui est noir, il faut beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais si ce mur est nettoyé, comme on le fait maintenant, et s'il est réenduit avec à fresco, avec des enduits à la chaux, ocre très clair, éventuellement quelques nuances d'ocre pour souligner les lignes de force de l'architecture, à ce moment-là, on va obtenir une clarté nettement supérieure. On peut faire cette expérience déjà dans les deux chapelles qui ont été restaurées, plus la voûte du chœur qui est maintenant restituée. On est en train de faire les parties basses, je crois qu'on va commencer la nef. Donc là, on a beaucoup de chance d'assister à un programme de restauration très, très rapide qui permettra, une fois que tout sera fait, de retrouver et de refaire l'expérience initiale de l'illumination. Il suffira de rentrer le soir, de faire cette veillée de prière pendant toute la nuit et de voir le matin la cathédrale s'embraser dans une lumière qui est celle de la résurrection, mais une lumière totale. Alors c'est quelque chose qui nous étonne parce que on avait perdu de vue que ces murs étaient enduits d'abord. On préfère souvent la pierre nue, qui nous semble être un matériau noble, et on ne comprend pas très bien pourquoi il faudrait réenduire toutes ces pierres, et encore plus, on ne comprend pas pourquoi il faudrait refaire ce qu'on appelle des faux joints, un faux appareillage, parce que sur cet enduit, on va redessiner avec des enduits blancs le dessin des pierres, un dessin idéal, théorique. Alors, il faut bien comprendre l'esprit médiéval. L'esprit médiéval, effectivement, aime bien les matériaux, il construit avec de la pierre, et heureusement la pierre de Berchère ici permet des merveilles au niveau construction, mais le but n'est pas d'honorer la pierre en tant que pierre. La pierre est un matériau qui doit se faire oublier en tant que matériau pour dégager de l'immatérialité et pour dégager de la lumière. Alors, c'est un tour de force, avec du verre déjà, on y arrive, c'est pas trop difficile de faire passer la lumière à travers le matériau vert, mais faire surgir la lumière de la pierre, c'est très difficile, c'est ce qui est dit dans l'Évangile. Même les pierres crieront, même les pierres chanteront la louange de Dieu. Ça, c'est très difficile et ça suppose un traitement. Un traitement, effectivement, d'enluminure, on pourrait dire, c'est-à-dire un traitement de revêtement avec une chaux très claire qui va effectivement masquer, pour une part, le matériau d'origine pour lui donner sa parure idéale, sa parure de lumière. Et on va redessiner même l'appareillage, non pas pour créer quelque chose de faux, comme on le dit, je pense que l'expression « un faux appareillage » est une expression malheureuse, parce qu'il s'agit en fait d'évoquer un appareillage idéal, qui n'est pas celui de l'imperfection, même de nos grands maçons et de nos grands architectes, qui ne construiront de toute façon pas quelque chose aussi beau que la Jérusalem céleste qui nous est promise. Et donc, il s'agit d'idéaliser au maximum l'édifice en faisant oublier la pesanteur, en faisant oublier cette matière qui, bien sûr, est à l'origine. Il ne s'agit pas de faire sans la matière, mais il s'agit de donner à cette matière tous ses atours de lumière et de la rendre finalement aussi légère, aussi pure qu'un cristal de roche, un cristal de lumière.
Merci beaucoup Jean-Paul de Rome. Nous sommes déjà malheureusement arrivés au terme de notre émission. Vous nous avez éclairé. Et nous vous remercions, les auditeurs vous remercient également. Donc pour tous ceux qui aimeraient vous écouter, peut-être un jour pour les journées d'études du Centre international de Vitrail, il y a une prochaine session au mois de mars 2010. Merci beaucoup, Dieu et lumière, le gothique c'est l'architecture de la lumière. Merci beaucoup Jean-Paul de Rome.
Merci.
Au revoir chers auditeurs de Radio Grand Ciel.